Bonsoir à toutes et à tous. Ça y est, le Brexit pour Noël. Un accord commercial a été trouvé hier après-midi entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Ces deux blocs vont donc pouvoir continuer à commercer librement et sans droits de douane à partir du 1er janvier. Alors, quel avenir pour la Grande-Bretagne, désormais seule dans la mondialisation ? Pourquoi les Britanniques ont-ils voulu quitter l'Union européenne ? Quels sont les ressorts de ce vote du Brexit ? Quelles leçons en tirer ? Et quelles conséquences sur l'avenir de l'Europe ? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Brexit, Paris réussi » avec un point d'interrogation. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Dominique Giuliani. Vous êtes président de la Fondation Robert Schuman, auteur du rapport Schuman sur l'état de l'Union. C'est aux éditions Marie B. Anne-Elisabeth Moutet, vous êtes journaliste, éditorialiste au journal britannique Le Daily Telegraph et auteur, je rappelle votre livre, hein, « William et Harry, dernière chance pour la couronne », c'est aux éditions Télémac. En visioconférence, on retrouve Patrick Martin-Jeunier. Vous êtes enseignant en droit public, spécialiste des affaires européennes et auteur de « L'Europe a-t-elle un avenir ?» C'est aux éditions Studirama. Et enfin, Sylvie Matelli, économiste, directrice adjointe de l'IRIS. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Bah, Sylvie Matelli, je commence avec vous. Est-ce que, alors, donc, le Brexit a été dealé hier après-midi. Est-ce qu'on peut penser que ces interminables files de camions qu'on a vues la semaine dernière à cause du tunnel qui était fermé, dont beaucoup disaient que c'est un avant-goût de ce que pourrait être une sortie sans accord. Est-ce que vous pensez que ces files de camions, avec des camionneurs en colère, ça a joué dans le fait qu'on ait signé hier soir ?
C'est clair que ça faisait brouillon, ces files de camions. Depuis 2-3 jours, on se disait que ça ne pouvait pas continuer comme ça et que si se rajoutait à ça l'effet Brexit au 31 décembre, ça allait être terrible pour Boris Johnson. Mais je crois que le changement de cap de Boris Johnson, il date plutôt du mois de novembre, en fait. On se rappelle au mois d'octobre, quand il a arrêté les négociations en disant « ça y est, c'est terminé », et il a commencé à parler et à expliquer à ses compatriotes qu'on s'orientait vers un no deal. Et puis tout d'un coup, à partir de la mi-novembre, on l'a vu progressivement s'assouplir, s'adoucir, retourner à la table des négociations, intensifier les négociations, et on sentait début décembre qu'il était prêt à quelques concessions pour parvenir à un accord. Alors probablement que ce qui a énormément joué, c'est le 25 décembre, puisque les négociateurs européens avaient expliqué que c'était maintenant ou jamais en fait qu'on parvenait à cet accord, donc ils ont dû véritablement accélérer la marche hier.
Jean-Dominique Giuliani, alors dans une négociation, il y a toujours des postures. On a l'impression que les Français étaient quand même les méchants dans cette histoire de négociation. Il y a même eu le Daily Express, on va voir la une, hein, qui montre que clairement, Emmanuel Macron a pris un malin plaisir à fermer le tunnel sous la Manche et à provoquer cette pagaille dans le port de Douvres. Alors voilà une du Daily Express qui dit « avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis ». Et on voit la photo d'Emmanuel Macron.
Ouais, bah c'est un classique, n'est-ce pas ? Dès qu'il y a un problème, c'est les Français qui sont les boucs émissaires. Mais Angela Merkel a eu droit aussi, elle, aux critiques britanniques. En réalité, oui, la France avait une ligne de fermeté, incontestablement, mais elle n'était pas toute seule. Notamment sur la pêche, les Néerlandais, les Danois, les Espagnols étaient aussi très soucieux. Non pas de faire un exemple, mais de tenir compte de la réalité. Les Britanniques voulaient sortir, c'est leur droit, mais ils voulaient rester, en réalité. Et ils avaient un pied dedans, un pied dehors, maintenant c'est l'inverse. Et donc, ça a un prix. Et le prix du Brexit, je crois qu'on va maintenant le voir, d'ailleurs, hein, y compris chez nous. Il y a un vrai prix pour le Brexit. On n'en a pas fini avec cet accord. Ils sont en dehors de l'Union depuis le 31 janvier. Là, on a fixé des relations commerciales futures. Et je crois que la raison l'a emporté des deux côtés, parce qu'on ne pouvait pas du jour au lendemain tout bloquer, on l'a vu. Mais en réalité, il va falloir négocier encore et toujours. Et si je peux me permettre, il y aura encore beaucoup d'émissions, c'est dans l'air, sur le Brexit.
Eh bien, tant mieux.
Sur le sujet, on est habitué. Et parce que c'est très compliqué. Et in fine, parce que, comment dire, tout ça pour ça, en réalité, je pense qu'on va en parler. C'est un gâchis à peu près inutile, dont on sort plutôt honorablement, tant mieux.
D'accord. Il n'empêche, c'était une situation inextricable. Boris Johnson a été élu, sa phrase était « get Brexit down », hein, « faire ce Brexit ». Ben, il a réussi. La Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne et elle vient de sceller un accord commercial avec l'Union européenne. C'est quand même un succès personnel pour l'excentrique Boris Johnson ?
Alors, en tout cas, oui, parce que Boris Johnson, c'est, vous dites qu'il est excentrique, c'est quelqu'un qui a un sens pratique à l'intérieur, bien compris, qui s'intéresse beaucoup à Boris Johnson lui-même, d'ailleurs, et il savait bien qu'il n'avait pas les moyens de se planter. Alors, la différence entre lui et Theresa May, c'est qu'elle ne voulait pas non plus rater et que néanmoins, elle n'a pas réussi, et c'est là où il y a ce que les Anglais appellent du brinkmanship, c'est-à-dire la capacité de faire avancer les choses en politique. Cela dit, c'est le deal qu'il fallait faire, c'était ça ou rien, et rien, ça aurait été franchement difficile. C'est pas formidable. Les Britanniques qui ont voté pour des raisons purement politiques, c'est-à-dire pour des raisons de souveraineté, pour des raisons de refus d'un produit de l'union toujours plus proche qui est inscrite dans la Constitution européenne et qui les a toujours profondément dérangés, parce que c'est un blanc-seing avec pas de voie de retour. On vient de voir à quel point c'est difficile simplement de sortir. Ça, ils ont gagné. Sur le plan économique, ils ont effectivement, comme dit Jean-Dominique, ils ont sauvé le commerce. C'est très important. C'est aussi très important pour les Européens. Ils n'ont pas entièrement sauvé la City de Londres. Ils ont trouvé une espèce d'accord dans lequel il n'y a pas ce dont on a parlé, les droits de passporting, c'est-à-dire une entreprise financière, une société d'assurance, une banque peut travailler dans un pays européen, elle peut travailler partout. Il faut bien se rendre compte que les services financiers britanniques, c'est 80% de leurs exportations. Alors, un petit peu de macro, c'est bien, mais ce n'est pas essentiel.
Ça, ils se sont beaucoup intéressés à la pêche qui est microscopique et très peu à la défense des intérêts de la City, qui représente 7% du PIB.
Je dirais qu'il y a eu un déplacement lacanien. Je veux dire que le poisson a servi de symbole pour tout le monde. D'accord. Mais c'est beaucoup plus du domaine de la psychanalyse et de la propagande que d'autres choses. Et puis, du fait que ça ruinait des gens et que ces gens étaient symboliques, qu'on les voyait bien et que défendre des financiers, c'est dur. Je crois surtout que l'Europe a absolument tenu bon sur cette histoire de passporting. Il disait, il y a 4 ans, vous n'aurez pas le passporting. Il n'y a pas. Alors, il y a quelque chose d'autre qui s'appelle le système des équivalences. Le système des équivalences, ça veut dire que il y a un régulateur qui admet mais qui peut changer d'avis la validité
des
accords financiers qui permettent à toutes ces entreprises d'opérer dans les pays européens. Et j'ajoute à apporter un service important. Nous rentrons dans une crise financière, une crise économique importante. Si on n'a pas un peu d'huile à mettre dans la machine, si on n'a pas un endroit où on peut trouver l'argent pour donner des crédits aux pays, parce qu'il faut bien qu'un marché fournisse de l'argent aux États pour qu'ensuite ils puissent le reprêter aux entreprises en difficulté.
Donc le secteur financier a été un peu l'oublié de ces négociations et de ce deal du Brexit. On va revenir
parce que c'est vraiment important.
Mais juste un mot, Patrick Martin-Jeunier, c'est vrai, là, on voulait titrer cette émission un Brexit pour Noël. Hier soir, on a posé dans le JT de 20h de France 2, on a posé la question à Michel Barnier. Jean-Baptiste Marteau lui a dit, alors qui a gagné ? Et il a répondu, mais personne n'a gagné. Il n'y a que des perdants. On est loser-loser. En fait, c'est quand même très triste. C'est un divorce. Un divorce, c'est jamais un succès, Patrick Martin-Jeunier.
Oui, bien sûr qu'un divorce n'est jamais un succès, mais moi, je ne le vois pas comme un divorce. Nous étions partis d'une situation très dure. Et en effet, lorsque l'on fait un compromis au niveau de l'Union européenne, ça fait 50 ans qu'on dit ça, eh bien, chacun a intérêt à y gagner. Boris Johnson ne pouvait pas faire autrement. Franchement, les Britanniques ont voté pour sortir de l'Union européenne. Il fallait vraiment le faire. Politiquement, c'était insupportable que d'être dans l'incapacité de sortir. Dès lors, si on ne sortait pas, c'était un audit, c'était une catastrophe. Et donc, on allait avoir la situation que nous venons de vivre, où des milliers de camions sont en train d'attendre dans des conditions sanitaires inacceptables, où les gens ne peuvent pas passer Noël chez eux. Ça aurait été un véritable chaos. Donc, moi, je dis que politiquement, il était important que le peuple britannique puisse sortir, puisque c'était son choix politique. On ne va pas revenir sur les mensonges de la campagne. Il fallait donc sortir. Et c'est Boris Johnson qui le fait. Il l'a fait dans des conditions qui, moi, me semblent plutôt correctes. Et en tout cas, pour moi, un compromis, c'est toujours gagnant-gagnant. Pourquoi ? Parce qu'on aura peut-être l'occasion de le dire. D'une part, sur le plan commercial, sur le plan financier, c'est peut-être pas parfait, comme vient de le dire Elisabeth Moutet, mais sur le plan commercial, il préserve largement. Boris Johnson commence l'introduction de son rapport en disant « c'est zéro tarif, zéro taxe ». En effet, on va rester comme avant, il n'y aura pas de taxe à partir du moment où ce sont des produits regardés comme étant des produits européens qui exportent vers l'Union européenne. Et par ailleurs, cela vient d'être dit également, eh bien, sur la pêche, vous savez que Boris Johnson, au début, eh bien, avait demandé un rapatriement de 80% des quotas de pêche. On est descendu à 60%. Puis finalement, on s'est mis d'accord à 25%. Mais surtout, ils ont fait une concession sur l'accès aux eaux territoriales dans la limite des 6 à 12 miles nautiques, c'est-à-dire 20 km. Et ça, au début, Boris Johnson n'en voulait pas. C'eût été une catastrophe pour les pêcheurs français et européens. Par conséquent, il me semble que dès lors qu'on ne pouvait pas remettre en cause la volonté de sortir de l'Union européenne, ce compromis, pour moi, c'est plutôt du gagnant-gagnant.
Voilà, eh bien, the deal is down, l'accord est conclu. Donc, soulagement hein, hier des deux côtés de la Manche. Après de longs mois de négociations difficiles, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont enfin trouvé un terrain d'entente. Alors, peut-on parler d'une victoire pour Boris Johnson? C'est en tous les cas ce qu'il a affirmé hier aux Britanniques. Voyez ce sujet de Magali Lacroze et Aurélie Saner.
J'ai un petit cadeau. Pour ceux qui cherchaient quelque chose à lire dans la torpeur de l'après-déjeuner de Noël.
Post-Christmas lunch moment. And here it is.
Et le voilà.
Tidings.
Des nouvelles réjouissantes. Parce que ça, c'est l'accord.
This is a deal.
Une note d'humour british à quelques heures du réveillon de Noël. L'accord de divorce est conclu entre Londres et l'Europe. Face à la presse, Boris Johnson évoque les relations à venir avec ceux qu'il appelle désormais ses amis européens et présente l'accord comme une victoire.
Je pense que cet accord signifie une nouvelle stabilité et une nouvelle certitude dans ce qui a parfois été une relation brisée et difficile. Nous serons votre ami, votre allié, votre supporter. Et ne l'oublions jamais, votre marché numéro un. Nous avons repris le contrôle de nos lois et de notre destin.
La présidente de la Commission européenne, elle aussi, salue l'accord, visiblement soulagée d'avoir évité un no deal.
Nous avons trouvé un accord. Ce fut une longue route, sinueuse, mais nous avons conclu un bon accord. C'est un accord juste et équilibré, et c'est la chose juste et responsable à faire pour les deux parties.
Tout s'est accéléré ces derniers jours. Alors qu'en Angleterre, des milliers de routiers sont bloqués à la frontière pour raisons sanitaires, la tension monte. À Bruxelles, les négociations s'allongent interminablement. Le négociateur en chef du Brexit, Michel Barnier, finit même par s'en agacer.
Cet accord demandera des efforts, je le sais, mais l'Union européenne sera présente aux côtés des pêcheurs européens pour les accompagner. C'est notre engagement.
Jusqu'au dernier moment, officiellement, Boris Johnson campe sur ses positions. Est-ce un coup de bluff stratégique ou un ultimatum? Le bras de fer dure.
S'il n'y a pas d'accord, alors bon, à partir du 1er janvier, on adoptera les règles de l'Organisation mondiale du commerce.
Comment les deux parties se sont-elles entendues? Quelles concessions ont été faites? Les quotas de pêche européens dans les eaux britanniques, principal point d'accrochage lors des négociations, seront progressivement baissés de 25% jusqu'en 2026. Les échanges commerciaux entre Londres et l'Europe seront exemptés de droits de douane et de quotas, mais ils devront être déclarés à la frontière et donc contrôlés. Les règles de la concurrence seront encadrées, comme le voulait Bruxelles. Un bon accord pour les membres unis de l'Union européenne, commente le président français.
L'unité et la fermeté européenne ont payé. L'accord avec le Royaume-Uni est essentiel pour protéger nos citoyens, nos pêcheurs, nos producteurs. Nous nous assurerons que c'est bien le cas. L'Europe avance et peut regarder vers l'avenir, unie, souveraine et forte.
Le texte devrait être entériné par les députés britanniques la semaine prochaine. Mais les ennuis commencent pour Boris Johnson. Dès hier soir, l'Écosse affirmait vouloir rejoindre l'Union européenne en nation indépendante.
Alors, question téléspectateur Sylvie Matelli, pourquoi ce Brexit, puisqu'au final, rien ne change, sauf pour les pêcheurs et les étudiants? C'est vrai que Sylvie Matelli, si j'ai bien compris, les pêcheurs français vont devoir réduire de 25% leur capture de poissons dans les eaux britanniques. On y risque de ne pas être très contents quand même.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'était un peu un point crucial de l'accord, puisque depuis plusieurs mois, on négociait là-dessus. Alors, c'est quand même une réduction qui va s'échelonner sur 5 ans et puis qui sera renégociée chaque année à partir de 2026. Donc, on est dans un compromis par rapport à ce qui avait été annoncé au tout départ par, c'est ce que rappelait tout à l'heure Patrick Martin-Génier. Pourquoi ce Brexit? C'est la vraie question et c'est vraiment ce qu'on retrouve dans cet accord. C'est-à-dire, il y avait cette idée de reprendre le contrôle. Il y avait cette idée de retour à la souveraineté et l'accord est à la fois très étonnant et très prévisible. C'est un accord très politique, en fait, et Boris Johnson l'a présenté comme ça, avec un retour et une reprise en main sur un certain nombre de sujets. La question des normes, c'est un véritable compromis, c'est-à-dire on a cédé aux desiderata des Européens qui voulaient avoir, être sûr que on n'organiserait pas, les Britanniques n'organiseraient pas un Singapour sur Tamise, ou alors ne rogneraient pas leurs normes pour attirer les investisseurs étrangers, mais on est quand même dans quelque chose où il peut y avoir des décalages et les Britanniques ne sont plus obligés du tout de suivre les normes européennes. Par contre, sur l'essentiel, et Anne-Elisabeth Moutet le rappelait tout à l'heure, les questions financières, mais aussi la question de la circulation des personnes, des étudiants les étudiants britanniques qui ne pourront plus profiter d'Erasmus, des étudiants étrangers qui ne pourront plus aller au Royaume-Uni et avoir des petits jobs, ou en tout cas de manière beaucoup plus compliquée, il est clair que l'essentiel n'est pas dans cet accord et tout reste encore à négocier. Alors je ne sais pas si on parlera encore de Brexit, puisque hier, certains parlementaires britanniques disaient « Ouf, ça y est, c'est fini, on oublie ce mot », mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de choses et énormément de dossiers qui restent à négocier. La défense non plus n'est pas dans l'accord, alors que le Royaume-Uni est quand même l'un des principaux pays à dépenser dans ce domaine et à être actif dans ce secteur-là également. Donc on s'aperçoit qu'on est au début, on a franchi de nombreuses étapes, mais on est au début de ce chemin.
Patrick Martin-Jeunier, pour être concret aussi, ça va être plus compliqué pour les jeunes d'aller faire un petit job d'été, d'aller apprendre l'anglais ou de s'inscrire dans une université en Grande-Bretagne. Mais même, on parle de rétablir un passeport, de rétablir un permis de conduire international. Vos étudiants, j'imagine, ils se disent, tiens, on va me compliquer la vie pour aller en Angleterre. Et c'est important d'aller en Angleterre, pour, ne serait-ce que pour apprendre l'anglais.
Oui, je dirais que malheureusement, c'est une catastrophe, c'est dramatique pour les jeunes. Je dirais que malheureusement, ce sont les jeunes, la jeune génération qui est sacrifiée avec cela, parce que Michel Barnier, je crois, l'avait rappelé, il a été proposé de continuer à participer au programme Erasmus+, vous savez, qui permet aux étudiants d'aller passer une année, notamment au Royaume-Uni. Il n'y a qu'un îlot qui va être sauvegardé, c'est l'Irlande du Nord, parce qu'ils sont alignés sur les règles de l'Union européenne, mais c'est une catastrophe pour les étudiants. Erasmus+, ils pourront continuer à aller étudier là-bas, mais ils devront payer, doubler leurs frais de scolarité, leurs frais universitaires, et ça c'est une catastrophe parce qu'une année d'Erasmus est validée dans les universités françaises. Donc c'est vrai, c'est très grave. S'agissant, il n'y a pas que les étudiants, il y a aussi, vous savez, je suis allé à Londres il y a un an, je suis allé dans un café, il y avait une Polonaise, il y avait un Italien, un Français. Eh bien, ce genre de personnel dont on a besoin, je ne parle même pas du service national de santé dans les hôpitaux, on a besoin de ce genre de main-d'œuvre qui ne correspond pas exactement à ce que souhaite le gouvernement britannique, car comme vous l'avez dit, ils vont instaurer une nouvelle politique migratoire, c'est-à-dire qu'au-delà de 3 mois, vous devrez avoir un visa de travail, c'est un état tiers, et donc ils vont faire ce permis à points, comme en Australie. Alors, soit vous êtes un personnel excellent, très qualifié, ou pas du tout. Et si vous ne gagnez pas une certaine somme d'argent, un certain salaire, vous ne serez pas accepté. Or, le Royaume-Uni a besoin, que ce soit dans la restauration, dans la boulangerie, dans les services nationaux de santé, de ce genre de personnel. Et là, ça va être extrêmement plus compliqué, en effet, notamment pour les jeunes.
Anne-Elisabeth Moutet, donc je reprends la question. Pourquoi ce Brexit hier? C'était frappant. Boris Johnson disait « Nous ne serons plus sous la dictature des tribunaux européens, la Cour de justice de l'Union européenne. Nous serons maintenant sous nos tribunaux britanniques. » Pourquoi on a l'impression que c'était insupportable pour les Britanniques que d'être sous la domination de Bruxelles, qui pour eux était presque une domination étrangère?
Mais parce
qu'est-ce qui se passe dans la tête des Anglais pour qu'ils voient ça comme une domination étrangère?
Mais la France se plaint aussi, seulement la France, il y a beaucoup de cas où on décide de ne pas appliquer les décisions de la Cour de justice, et les batailles sont assez difficiles. Les Britanniques suivent, quand ils signent un traité, ensuite ils font tout comme il faut. En France, c'est moins le cas, même s'il y a une amende plus tard, on se dit que c'est le moment de le faire. Et à beaucoup de points de vue, il y avait vraiment pour considérer qu'il y avait une perte de souveraineté, en particulier dans les jugements sur les questions de terrorisme, sur les questions de reconduite à la frontière d'un certain nombre de personnes qui avaient fait de la prison et dont on savait qu'elles étaient coupables, elles n'étaient pas soupçonnées. Sur la circulation générale des gens, je pense que là, on rentre dans la réalité idéologique du Brexit, c'est-à-dire qu'on n'est pas seul. Les Britanniques considèrent que c'est important d'avoir leur choix. Quand et D'un autre côté, ils sont extrêmement adaptables. Alors quand on dit « Ah, ils ont besoin d'un personnel », mais le principe de l'immigration à point, c'est justement que s'il y a besoin de gens dans un certain secteur, on va les laisser rentrer sans aucune difficulté. Dans les hôpitaux, sans aucune difficulté. Au contraire, ils les invitent. Sur les universités, même chose. Alors c'est vrai qu'Erasmus, c'était bien, mais la Grande-Bretagne perdait énormément parce que vous aviez, je crois, 143 000 étudiants européens qui venaient dans les universités britanniques et vous en aviez 46 000 de Britanniques qui allaient en Europe. Alors c'est tout de même, il y a une certaine asymétrie, mais ce que Boris Johnson a dit, c'est qu'il va faire un programme mondial d'échange avec des étudiants et il n'y a pas de bonnes universités qu'en Europe. Vous avez l'université de Tokyo, Todai, vous avez l'université McGill en Californie, vous avez MGIMO à Moscou qui est une université extraordinaire.
C'est le projet Global Britain. En fait, la Grande-Bretagne n'est pas européenne, elle est mondiale.
Et ce n'est pas une mauvaise chose d'envoyer aussi
n'allons
ces
pas
étudiants.
À Paris, allons à Tokyo. Allons,
oui, à Tokyo, en Corée du Nord, en Corée du Sud, dans toutes sortes d'endroits où il y a d'excellentes universités et où on pense un peu différemment. Il y a l'uniformité européenne dit qu'il n'y a pas de salut hors d'Europe et c'est quelque chose que les Britanniques refusent.
Jean-Dominique Giuliani, hier, Michel Barnier s'interrogeait sur cette volonté des Britanniques de retrouver leur souveraineté. Il disait, mais c'est quoi être souverain au XXIe siècle, quand il y a la Chine, quand il y a les États-Unis? Il a donné une définition au Boris Johnson. Il a dit, nous avons repris le contrôle de notre monnaie, de nos frontières, de nos lois, de notre commerce et de nos eaux. Est-ce que c'est pas ça la définition et c'est ça que les Anglais voulaient récupérer?
Eh bien, on va le voir. Moi, je vous dis que c'est un grand mensonge, n'est-ce pas? Parce qu'il confond identité, souveraineté et en fait, il fait du souverainisme. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui va être très intéressant pour le reste du continent européen. Quand il dit « je reprends ma souveraineté, mais j'ai besoin du marché européen, donc je fais des concessions », alors déjà, c'est une souveraineté amputée. Quand il dit « oui, mais finalement, d'accord, vous pouvez pêcher », ah bon ? Mais alors, la souveraineté des eaux territoriales, elle est où ? Aujourd'hui, on le voit avec Trump aux États-Unis, on peut se permettre la souveraineté au niveau continental. On ne peut pas se permettre une petite île isolée au nord de l'Europe d'être souverain parce qu'on dépend tout le temps des autres. La moitié du commerce britannique dépend du continent européen et pas du monde entier, du continent européen. Donc aujourd'hui, la réalité de l'économie, de la vie, c'est la liberté de circuler, de commercer pour enrichir les uns et les autres. Donc son Brexit, son souverainisme, ce n'est pas de la souveraineté, c'est une idéologie de la souveraineté, c'est un mensonge. Il fait croire qu'il va pouvoir décider tout seul, il ne peut pas. Tiens, un exemple. Par exemple, Michel Barnier a obtenu que le Royaume-Uni, qui le contestait, reste dans la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire la meilleure définition des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, qui condamne la Russie, la Turquie en permanence. Eh bien, il voulait en sortir. Eh bien, il reste dedans parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il appartient au camp de la liberté. Donc, si vous voulez, la souveraineté, elle est relative. Et dire « je vais faire ce que je veux », etc., ce n'est pas vrai.
C'est une posture.
Ce n'est pas vrai. C'est une posture politicienne de souverainisme. Et comment vous dire, en plus, je ne comprends pas que ça vienne du Royaume-Uni. Parce que le Royaume-Uni, il doit toute sa fortune à son ouverture d'esprit mondial, son empire, son passé, et au libéralisme le plus absolu. Or, le libéralisme le plus absolu aujourd'hui, on voit bien qu'on veut une réglementation, on a besoin de l'État, lui-même a changé d'avis. Et puis, l'ouverture, il ferme ses frontières. Et vous allez voir que tous ceux qui disent « la souveraineté, c'est les frontières, etc. », on va voir le 1er janvier, parce que ça, on ne vient pas de le dire, le 1er janvier, on va pouvoir commercer sans droit de douane, mais il y aura des contrôles douaniers.
Il y aura des contrôles.
Donc,
des douaniers qui ne taxeront pas, mais qui contrôleront.
Voilà, il va y avoir des queues aux frontières, tout ça. Il y a 30 ans, on a ouvert le tunnel sous la Manche comme une phase de liberté des deux côtés de la Manche, et aujourd'hui, c'est une immense régression.
Sylvie Matelli, l'une des conséquences immédiates de ce Brexit, ça a été la réaction du Premier ministre d'Écosse, qui a une phrase, alors écoutez, on ne peut plus clair, on va la voir. Je l'ai là, voilà. Il est temps de tracer notre propre avenir en tant que nation européenne indépendante. Est-ce que ce Brexit pourrait se traduire à brève échéance par une dissolution du Royaume-Uni avec le départ de l'Écosse ?
Là, ça, c'est une question très politique et je ne pense pas que l'Écosse puisse aujourd'hui se détacher du Royaume-Uni, mais ça risque d'être dans les semaines et les mois qui viennent effectivement le poil à gratter. Parce que comme ça vient d'être dit très justement, on a un accord aujourd'hui, on a un certain nombre de choses qui sont posées dans cet accord, il y en a nombre d'autres qui ne le sont pas, et puis surtout cet accord va devoir fonctionner. Et encore une fois, comme vient de le dire Jean-Dominique Giuliani il y a un instant, les files de camions, elles vont avoir lieu au début de l'année et il est clair que le contexte politique en début d'année, en début de Brexit, dans la vraie vie en fait, de vrai Brexit, de concrétisation de ce Brexit, les premiers mois vont être probablement assez compliqués pour Boris Johnson. Il va devoir justifier, mais comment on a un accord et pourtant il se passe ça, ça et ça, alors qu'on nous avait dit que c'était les conséquences d'un éventuel non-accord, d'un éventuel no-deal. Donc c'est clair que ça ne va pas être facile de gérer ces oppositions diverses et variées et la situation de l'Écosse, mais encore une fois, sans être spécialiste de ces questions et sans être politologue, je ne crois pas, pour d'ailleurs les mêmes raisons de dépendance et d'interdépendance entre l'Écosse et le reste du Royaume-Uni, je ne crois pas que l'Écosse puisse se permettre l'indépendance.
En tous les cas, deuxième conséquence, Patrick Martin-Genier, le Royaume-Uni, donc c'est quatre entités, hein, l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord. Conséquence de ce Brexit, l'Irlande du Nord, elle, va rester... va continuer de suivre les règles de la République d'Irlande. Est-ce que là, pour le coup, en pratique, le Royaume-Uni n'est pas en train de perdre l'Irlande qui, bah, la réunification est en marche, quoi.
Oui, c'est vrai que le débat sur la réunification a lieu depuis un certain nombre d'années, mais là encore, je rejoins ce que disait Sylvie Matelli sur l'Écosse, ce n'est pas demain que nous aurons une réunification de l'Irlande, mais l'Irlande du Nord a la chance, en quelque sorte, d'être dans un régime spécifique. Vous savez que ce qu'on a appelé les accords du Vendredi Saint, c'est-à-dire de 1998, qui ont fait la paix entre les protestants et les catholiques, eh bien, interdit toutes sortes de frontières entre la République d'Irlande, qui est dans l'Union européenne, et l'Irlande du Nord. Donc, il y a là effectivement quelque chose de très important. D'ailleurs, s'agissant d'Erasmus, ça m'amuse un peu parce que vous parliez des étudiants tout à l'heure, il y en a beaucoup qui vont venir s'installer en Irlande du Nord pour être regardés comme un étudiant là-bas et qui vont faire Erasmus. Donc ça montre bien qu'ils sont dans une situation privilégiée, mais je crains que là aussi il y ait des difficultés. Je ne veux pas surestimer les difficultés, mais vous savez qu'avant cet accord, la Commission européenne et le gouvernement britannique s'étaient mis d'accord sur d'éventuels contrôles parce que tout le défi aujourd'hui, c'est de contrôler les marchandises qui rentrent dans l'Irlande du Nord de la part de l'Angleterre pour s'assurer qu'elles ne vont pas rentrer illégalement en République d'Irlande et donc dans l'Union européenne. Donc c'est vrai qu'il y a un débat sur la réunification. Il y a même certains qui ont dit attention, ce qui est en train de se passer, c'est très grave, c'est susceptible et de nature à faire repartir des actes terroristes. Et malheureusement, il y a eu un certain nombre d'actes lors de la campagne. Donc il faut être extrêmement prudent. Je ne crois pas encore à la réunification, mais il est vrai aujourd'hui que le débat est relancé.
Parce qu'Anne-Elisabeth Moutet, on le sait, donc le Royaume-Uni a quatre composantes, hein, Pays de Galles, Écosse, Royaume-Uni, Angleterre et Irlande du Nord. Mais ce sont les Anglais qui ont voté pour le Brexit. On dit beaucoup que le Brexit, c'est une affaire d'Anglais. Pourquoi est-ce que ce peuple anglais, c'est quoi? C'est un sursaut d'orgueil?
Les Gallois ont voté pour le Brexit aussi.
Également.
C'est... Non, vraiment, je pense que oui, pour l'Écosse, c'était absolument évident que c'était... Enfin, toute opposition à Londres est bonne à prendre. L'Écosse est devenue, en quelques années, un bastion du SNP, le parti écossais nationaliste, qui a eu deux chefs charismatiques, Alex Salmond et maintenant Nicola Sturgeon, qui est une femme très manœuvrière, beaucoup de talent politicienne, et qui est aussi quelqu'un qui passe son temps à dire indépendance. Quel qu'ait été le résultat, deal, no deal, etc., nature du deal, elle aurait dit maintenant l'indépendance.
Oui, mais un jour ou l'autre, les choses finissent par arriver. Alors, avec le Brexit. Est-ce que ça n'inquiète pas la reine de voir son royaume se disloquer?
Ça inquiète certes la reine. De toute façon, constitutionnellement, il ne peut pas y avoir un autre référendum avant 2024, puisque le dernier a eu lieu en 2014 et que la réponse était valable pour 10 ans. 2024, c'est proche, donc on sait que la question ne se pose pas avant 2024. Alors, ce qui est intéressant, c'est que 2024, c'est aussi l'année des élections législatives britanniques, donc ça fait une conjonction de beaucoup de choses à la fois. La question est de savoir comment la gestion de ce Brexit va se passer maintenant, et là, je dirais qu'avec ses faiblesses, le deal qui vient d'être signé, va être celui où on va plus visiblement voir que ce n'est pas si difficile. Parce que la friction aux frontières, je veux dire, la Grande-Bretagne ne fait pas partie de l'espace Schengen, donc il y a tout de même des contrôles qui ne sont pas des contrôles douaniers. Ce n'est pas comme si c'était entièrement, on passe et personne ne vérifie quoi que ce soit. Vous voyez bien que vous prenez un train pour l'Allemagne et puis c'est comme de prendre un train pour Bordeaux. Prenez un train pour l'Angleterre, il y a le passeport, il y a tout ce qu'on veut. Donc ensuite, c'est une question de s'adapter et de faire marcher ça pour que les gens se disent bah, finalement, il n'y a pas tellement de différence. Il faut aussi se rendre compte que quand on dit ah, les malheureux étudiants, on ne parle pas de beaucoup de monde. On parle de gens relativement privilégiés qui font des études supérieures. Il y a moins de classes d'âge en Grande-Bretagne qui font des études supérieures qu'en France. Si quelque chose d'autre est offert d'une manière internationale, on verra. Donc là, Boris Johnson est parfaitement conscient du fait qu'il faut qu'il réussisse la mise en place du Brexit. Et ça sera moins politisé dans la mesure où une fois que les communes vont voter pour l'accord et même s'il y a de l'opposition au sein du parti travailliste assez dur, Keir Starmer a tout de même dit je ne peux pas soutenir
le
leader travailliste. Il dit je ne peux pas ne pas soutenir un deal plutôt que pas de deal. Et donc il a un petit peu de temps, pas trop. Pour faire marcher les choses. Si ça marche, les gens diront que ce n'est pas la peine de partir.
Alors, le 1er janvier donc, prochain, le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sera donc définitivement acté. La fin d'un interminable feuilleton dont on a beaucoup parlé ici. Hein. 4 années de coups de pression, de portes qui claquent, d'âpres négociations. 4 années de crise politique quasi permanente que nous racontent Juliette Vallon et Michel Bouilly.
Restez ou sortir. Ce jour-là, les Britanniques ont tranché.
Les électeurs ont pris une décision historique de se retirer de l'Union européenne après plus de 40 ans d'adhésion.
23 juin 2016, lors d'un référendum, une majorité de la population britannique, près de 52%, se prononce en faveur du Brexit. C'est la victoire de l'excentrique maire de Londres, Boris Johnson, et d'un camp prêt à tout pour obtenir ce résultat, jusqu'à faire de la désinformation. Mais c'est surtout la défaite d'un homme, le Premier ministre David Cameron, qui avait fait de ce vote une promesse de campagne.
Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir comme Premier ministre pour maintenir le navire à flot au cours des semaines et mois prochains. Mais il ne serait pas juste que je sois le capitaine conduisant le pays vers sa prochaine destination.
Ce référendum va ébranler un continent et plonger le peuple britannique dans sa plus grande période d'incertitude depuis la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'elle succède à David Cameron au 10 Downing Street, la conservatrice Theresa May est prête à se battre pour respecter le choix des Anglais.
Je suis très claire, Brexit signifie Brexit et comme cela a été dit, nous en ferons un succès.
Commence alors le temps des négociations entre Londres et Bruxelles. Le point le plus épineux à régler, c'est celui de la frontière irlandaise, le fameux backstop. Novembre 2018, la Première ministre trouve un accord avec les 27.
Order.
Reste encore à convaincre les parlementaires britanniques. Mission impossible pour Theresa May, qui va échouer à plusieurs reprises.
The eyes to the right, 202. The nose to the left, 432. So the noes have it. The noes have it.
Thank you, Mr. Speaker. It is.
Il est clair que le Parlement ne soutient pas ce projet d'accord, mais le vote de ce soir ne nous dit rien sur ce que le Parlement souhaite.
Les semaines passent et les déconvenues au palais de Westminster sont une souffrance pour Theresa May, au point d'en perdre la voix.
In UK and EU law.
Faute de compromis, l'Union européenne accepte de repousser l'échéance au 31 octobre 2019. Très fragilisée, Theresa May finit par annoncer sa démission, les larmes dans la voix.
Je partirai sans amertume, mais avec une énorme et infinie gratitude pour avoir eu l'opportunité de servir le pays que j'aime.
Nouveau Premier ministre, nouveau chapitre du Brexit, avec l'arrivée au pouvoir du très provocateur Boris Johnson. Principal artisan du référendum de 2016, il annonce d'emblée qu'il ne lâchera rien.
Notre mission est de réaliser le Brexit au 31 octobre en vue d'unir et de redynamiser le grand pays qu'est le Royaume-Uni pour en faire le meilleur au monde.
Et joue la carte du jusqu'au boutisme.
Pouvez-vous promettre aux Britanniques que vous n'allez pas retourner à Bruxelles et demander un nouveau délai pour le Brexit ?
Oui. Je l'assure, je préférerais encore être mort au fond d'un fossé.
Un Premier ministre agitateur qui, pendant de longs mois, va jouer avec les nerfs des autres dirigeants de l'Union européenne en faisant planer la menace d'un no deal. Le Brexit, ce sera à ses conditions. Mais face à Boris Johnson, les 27 font bloc pour obtenir le meilleur accord commercial possible, notamment sur la pêche. En première ligne, le négociateur en chef de l'Union européenne, Michel Barnier.
Il faut que cet effort soit raisonnable, qu'il préserve les activités de pêche des entreprises de pêche de l'Union européenne. Et il faut que le Royaume-Uni comprenne cela.
Le Brexit, un mot désormais entré dans le dictionnaire anglais et dans l'histoire. 4 ans auront été nécessaires pour en dessiner les contours. Reste maintenant à faire le grand saut le 1er janvier prochain.
Alors, question téléspectateur Anne-Elisabeth Moutet. L'Angleterre pourrait-elle rejoindre à nouveau l'Union européenne si le Labour, donc les travaillistes, revenait au pouvoir dans un contexte économique désastreux? Question de Jean-Pierre de Paris.
Alors ça, c'est dans le moyen terme, c'est pas dans le court terme, parce que Boris Johnson ou un autre leader conservateur a une majorité de 80 sièges, et ce sont des sièges qui étaient autrefois des sièges travaillistes, parce qu'en réalité, le Labour, une partie du Labour est en contre le Brexit, mais une autre partie est pour.
Ah. Et quelqu'un, dans chaque parti, on est divisé, il y a les pour et les contre.
Dans chaque parti, on est divisé, c'est ça, la ligne médiane passe au milieu des partis et pas de chaque côté. Je crois qu'il y a les libéraux-démocrates qui sont dans leur large majorité contre le Brexit, et c'est un petit parti charnière. Donc c'est relativement peu possible. Jeremy Corbyn d'ailleurs s'était pas couvert de gloire parce que sans, personnellement il était que pour le Brexit, mais il osait pas le dire parce que la ligne du parti était pas déterminée et ils essayaient de se ménager tout le monde. Et il n'a fait aucune réunion de campagne pour le camp du ne pas sortir, pour le camp de Remain, ce qui montrait bien qu'à quel point il le sentait pas. On peut dire que c'est Jeremy Corbyn qui a fait voter Brexit parce que les 2% qui ont manqué, ça aurait pu être des voix Labour.
Jean-Dominique Giuliani, est-ce qu'on peut dire que l'Union européenne, comment ressort-elle de cette épreuve qui a duré 4 années? On dit qu'on est resté unis, mais enfin quand même, on avait un membre éminent de notre club qui est parti en claquant la porte parce qu'il trouvait que l'ambiance y était épouvantable.
Il faut pas se cacher, c'est une amputation. C'est quelque chose en moins pour l'Europe, dans la grande géopolitique mondiale. C'est un moins. En termes de fonctionnement, c'est plutôt un mieux. Dans la mesure où, je prends un exemple, le plan de relance de plus de 2000 milliards d'euros qui a été décidé à Bruxelles, il a été décidé en 4 jours et 4 nuits d'ailleurs, il y aurait eu le Royaume-Uni, je pense que ça n'aurait pas été la même chose en termes de fonctionnement, parce qu'on le voit bien, ils sont encore sur des principes différents, alors que les idées, y compris des économistes allemands, évoluent très vite. Donc, en termes de fonctionnement, on va y gagner. C'était le rêve, souvenez-vous, de Michel Rocard, ancien Premier ministre français. Il faut qu'il sorte, comme ça on va pouvoir... C'est beaucoup plus compliqué parce que c'est quand même une amputation en termes de force, en termes de richesse, en termes de défense nationale, en termes de diplomatie. Il manque la diplomatie dans ce deal. Et c'est vraiment dommageable. Michel Barnier l'a pointé très justement. La France et le Royaume-Uni sont deux membres permanents du Conseil de sécurité. 98% de leurs votes sont identiques. Donc vous voyez bien que ça ne sert à rien d'être... à côté. Donc, on pourrait se mettre d'accord pour sanctionner la Russie, la Biélorussie, voire la Chine un jour, ensemble. Et ça, ça n'est pas dans l'accord. Donc, c'est pas terminé. On va continuer à discuter. Nos destins sont liés parce que, vous savez, dans la géopolitique, la géographie compte aussi beaucoup, pas seulement l'histoire. Et donc, c'est notre plus proche voisin. Donc, nos intérêts sont liés. Et on va devoir travailler ensemble.
Patrick Martin-Genier, les Anglais ont aussi fait la preuve que, on pouvait quitter l'Union européenne. Est-ce que c'est un message qui résonne dans certaines capitales, je ne sais pas, à Copenhague, à Varsovie ou en Hongrie? D'ailleurs, certains peuvent se dire, attention, si je dis c'est toujours la faute de l'Europe, les malheurs qui nous arrivent, le peuple va finir par vouloir exiger que nous sortions de l'Europe. Et les Anglais ont montré que c'était possible.
Oui, je pense que certains responsables politiques prennent des risques très importants. Parce que, vous savez, Viktor Orban, il y a des soupçons qui pèsent sur lui, notamment sur l'utilisation des fonds. Mais je crois que beaucoup de personnes, en réalité, responsables politiques, jouent contre l'Europe. Et c'est un peu... c'est assez terrible de voir que des responsables politiques n'assument pas du tout l'intégration européenne, quelque chose de formidable, qui est un outil de valeur, un outil de solidarité. Mais pour se disculper parler de ce qui ne va pas chez eux. Et il est toujours de bon ton de taper sur l'Union européenne, taper sur la Commission européenne qui serait un organisme technocratique supranational. On oublie qu'il existe un Parlement européen. Et donc, effectivement, cela peut donner des envies. Mais je dirais que le plus grand risque, c'est qu'à force de taper sur le dos de l'Union européenne, on donne effectivement des idées à certains peuples pour dire qu'il faut se débarrasser de l'Union européenne. Et c'est ça le risque. Mais par rapport, si vous me permettez, au reportage que vous avez passé, je crois que Theresa May, il faut lui rendre hommage. C'est quelqu'un qui fait un très gros travail. D'ailleurs, beaucoup de dispositions qui sont dans l'accord ont été faites par Theresa May. Elle a commis une erreur politique fondamentale. Vous disiez, ça met 4 ans et demi. Mais c'est parce qu'elle a provoqué la dissolution de la Chambre des communes et elle était dépendante du parti irlandais unioniste qui faisait la majorité. Elle était dépendante de ce parti politique, donc ça a été très long. En résumé, ce qu'il faut, c'est qu'il faut assumer l'intégration européenne. Il faut dire que c'est une question de valeur, pas uniquement d'argent, et que si nous n'avons pas des responsables politiques en France ou ailleurs, on a la chance d'avoir un président de la République qui est plutôt européen, si ce sont des responsables qui ne soutiennent pas l'Union européenne, fatalement, nous courons à notre perte parce que l'Europe ne se fera pas contre les peuples.
Sylvie Matelli, néanmoins, est-ce qu'on peut imaginer une Grande-Bretagne qui s'épanouisse en dehors de l'Union européenne, qui soit agile un peu, d'ailleurs là, elle a eu le vaccin avant les autres, et qui, un peu à l'image de la Suisse, deviendrait prospère et pourrait donner des idées ensuite à d'autres pays comme le Danemark ou la Suède, bah, de montrer qu'il y a une vie heureuse en dehors de l'Union européenne?
C'est le pari que fait Boris Johnson en réalité et qu'il ne cesse de répéter depuis que le référendum a été gagné par les Brexiteurs. Et effectivement, et je pense que c'est la crainte qu'exprime aussi Michel Barnier dans son discours d'hier en expliquant que personne ne gagne en fait à ce jeu et qu'un grand pays sort de l'Union européenne. Donc c'est clair que les mois qui viennent et les années qui viennent nous le diront. Simplement, ce qu'on observe aujourd'hui à court terme, et on peut penser que même si le Brexit fonctionne pour le Royaume-Uni, on peut leur souhaiter hein, que le Brexit fonctionne et que le pari de Boris Johnson soit plus réussi que celui qu'avait fait Cameron en son temps. On se rend compte que, somme toute, ces derniers mois, dans la crise du Covid, les Européens, après s'être beaucoup divisés en début d'année, ont quand même réussi à rester solidaires. Alors, bien sûr, dans la négociation avec le Royaume-Uni, mais aussi autour du plan de relance, ça a été rappelé à l'instant. Et je crois que ça, c'est un signe très positif. Et récemment, les sondages qui étaient faits partout en Europe en demandant aux Européens ce qu'ils pensaient de l'Union européenne et est-ce qu'ils pensaient que l'Union européenne était le bon niveau de décision face à la crise du Covid et à la crise économique qui s'annonce, eh bien, les Européens étaient très positifs. L'euroscepticisme semblait diminuer, semblait se réduire. Et d'ailleurs, on le voit, on a parlé de Viktor Orban, mais on pourrait aussi parler de la Pologne. Ils ont été relativement menaçants face au plan de relance. Et finalement, ils ont cédé assez rapidement parce qu'ils ont bien compris que l'Europe est la dimension adéquate pour prendre un certain nombre de décisions. Donc, on verra ce que sera l'avenir, mais je ne suis pas sûre que le Brexit ait à court et moyen terme affaibli l'Union européenne.
Alors, le Royaume-Uni s'apprête donc à faire le grand saut en pleine crise économique. Illustration à Barold-Swick. Barold-Swick, c'est dans le nord de l'Angleterre et c'est là qu'est installé l'un des joyaux de l'industrie britannique, à savoir Rolls-Royce, hein, le fabricant de moteurs d'avion. Mais la direction veut supprimer la moitié des emplois. Du coup, les ouvriers sont en grève pour plusieurs semaines. Vous voyez ce reportage d'Emilien David et David Lemarchand.
Barnoldswick, un îlot industriel perdu au milieu de la campagne du nord de l'Angleterre, aujourd'hui secoué par le plus gros conflit social de son histoire. Depuis un mois et demi, les salariés du fabricant de moteurs d'avion Rolls-Royce sont en grève pour protester contre la suppression de près de la moitié des emplois, 350 au total. Une partie de la production est délocalisée à Singapour.
Toute la ville nous soutient.
Pourquoi ?
Parce que Rolls-Royce est le cœur de la ville. Tout le monde connaît quelqu'un qui travaille ici. Je suis très déçu parce qu'on nous a menti. On nous a demandé de former les salariés du site de Singapour. Et on nous a toujours assuré que ça n'aurait aucune incidence sur nos emplois. Alors on l'a fait pour l'entreprise. Et voilà ce qui se passe.
La direction de Rolls-Royce invoque la crise sanitaire et ses conséquences sur le secteur aérien pour justifier son besoin d'économie. Un argument qui ne convainc pas cet élu local.
On a formé de super ingénieurs sur ce site de Barnoldswick. Et là, on se fait trahir. C'est ridicule.
Selon lui, c'est un autre élément qui pousse l'entreprise à délocaliser. La menace depuis 4 ans d'un Brexit sans accord.
Le Brexit rend les choses difficiles pour les usines comme Rolls-Royce qui sont implantées en Grande-Bretagne et qui exportent leur production. Alors délocaliser la production à Singapour ou dans l'Union européenne est inévitable. Là, on parle d'une usine, mais il y en a plein d'autres qui délocaliseront. C'est très triste pour notre pays.
En 2016, 63,2% des votes de ce district étaient en faveur du Brexit. Si le site ferme, c'est la fin d'une aventure industrielle intimement liée à l'histoire de la ville. Rolls-Royce fabrique ici des moteurs d'avion depuis 1943. Une histoire soigneusement documentée par David Steele, historien amateur.
C'est le premier moteur construit à Barnoldswick. C'est un W2B.
Un moteur de Spitfire, les célèbres avions de chasse de l'armée de l'air britannique. Un site hautement stratégique en pleine guerre mondiale. Rolls-Royce vient alors s'installer dans ce village pour fuir les bombardements allemands qui ravagent son site de Birmingham à 200 km de là.
C'était un endroit qui n'attirait pas l'attention. Et il cherchait un endroit loin de tout, dont personne n'avait entendu parler.
Ce qui n'était alors qu'un village se transforme en ville. Ouvriers et ingénieurs de tout le pays s'installent à Barnoldswick. Des quartiers comme celui-ci sont créés pour accueillir cette nouvelle population.
Rolls-Royce a même créé des clubs de sport, a construit des terrains de foot. Les gens se sont mélangés. Il y avait les gens d'ici et ceux qu'on a appelés les parachutés. Ceux qui sont arrivés d'ailleurs. Les gens vivaient ensemble. C'était comme une grande famille heureuse.
Grâce à Rolls-Royce et ses emplois bien rémunérés, la ville a prospéré. Elle compte aujourd'hui 11 000 habitants et de nombreux commerces. Mais David Whip, l'élu local qui pointe du doigt le Brexit, craint un effondrement si l'usine ferme.
Si Rolls-Royce quitte Barnoldswick, tous ces commerces seront en péril. On pourrait avoir des magasins vides et la valeur de nos maisons va baisser. On se retrouverait dans une ville sans emploi, sans espoir, sans prospérité, complètement désertée.
Une ville morte, voilà ce que craignent aujourd'hui les habitants de Barnoldswick, victimes du Covid et d'un accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne qui arrive peut-être trop tard.
Question téléspectateurs, parmi les pro-Brexit, il y en a certainement qui savent aujourd'hui qu'ils vont perdre leur emploi. Connaît-on leur état d'esprit, Jean-Dominique Giuliani? C'est vrai que, par exemple, on a souvent dit que la Grande-Bretagne était la porte d'entrée, par exemple, des constructeurs automobiles pour pénétrer le marché européen. Ça risque de moins l'être?
Oui, de moins l'être, sauf que, bon, on a essayé de limiter, avec cet accord, de limiter les conséquences, mais en réalité, l'industrie automobile britannique, aujourd'hui, elle est dans des mains étrangères. Tata, Volkswagen, etc. Même les marques les plus prestigieuses, Rolls-Royce par exemple.
Alors, Rolls-Royce, ouais, la partie automobile appartient aux Allemands. Ouais.
Donc on voit bien, si vous voulez, que dans cette compétition mondiale renouvelée, très très virulente, dont nous souffrons nous aussi sur le continent, en France, si on arrive à avoir la taille pertinente, on arrive à répartir en quelque sorte la production, la richesse. Et Rolls-Royce sont les moteurs d'avions, y compris des Airbus, en partie, etc. Donc, on a intérêt à intégrer les chaînes de production à la dimension continentale. Et tout ce qui l'affaiblit, et le Brexit l'affaiblit, qu'on le veuille ou non, tout ça va avoir des conséquences en termes d'emploi, en termes d'appauvrissement. Personne n'a à y gagner. Michel Barnier a raison. Personne n'a à y gagner, et certainement pas cela.
Il n'empêche, Anne-Elisabeth Moutet, cette classe ouvrière britannique qui se sent déclassée, c'est elle qui a porté Boris Johnson au pouvoir. Et c'est elle qui veut un peu plus de frontières, qui dit qu'il faut take back control, ça veut dire remettre des frontières et arrêter de toutes ces délocalisations et ce libre-échange.
Écoutez, il y a un écrivain qui a été traduit en français, David Goodhart, qui parle des anywheres et des somewheres. Les somewheres, ce sont les gens qui habitent quelque part, que leur cercle d'amis est dans leur région immédiate, dans leur ville immédiate. Ils ne bougent pas. C'est les gens de la France profonde en France et de ces pays en Angleterre. Et puis vous avez les somewheres, ce sont les élites des métropoles. Elles peuvent aussi bien, elles se sentent plus proches des élites comparables dans des capitales étrangères. Elles voyagent facilement, elle parle des langues étrangères. Et c'était la lutte entre les anywheres et les somewheres. Ce n'était pas que ça, mais c'était aussi ça. Et d'autre part, je dirais tout de même que Rolls-Royce, les moteurs d'avion, ce n'est pas à cause du Brexit qui délocalise. Il délocalise pour des raisons de rationalisation, mais surtout, il délocalise parce qu'entre la politique de décarbonation qui fait supprimer des lignes aériennes entières, comme on le fait en France, et le Covid qui a fait qu'on n'a pas voyagé pendant un an, les fabricants d'avions, ils sont dans une situation épouvantable. Donc, il y a toutes sortes d'usines qui ont été fermées chez nous et ailleurs, qui n'avaient rien à voir avec le Brexit ou un Frexit ou tout ce qu'on veut. C'est parce que c'est la nature de l'économie actuelle et vous avez des industries qui font fermer une ville. Ce n'est pas le meilleur exemple de ville qui est fermée par le Brexit. Le programme Airbus, il continue, mais pour le moment, personne n'en achète. Quand ils volent, ils sont vides.
Patrick Martin-Genier, il n'empêche, Boris Johnson n'est-il pas en train de changer l'ADN de la droite anglaise ? La droite anglaise, pour nous, c'était Margaret Thatcher, c'était le libéralisme. Eh bien, avec Boris Johnson, c'est moins de libéralisme, mais c'est beaucoup plus de souverainisme, de frontières.
Écoutez, manifestement, Boris Johnson n'est pas un leader conservateur classique. Beaucoup d'Anglais, je lisais la presse, l'appellent l'anglais nationaliste, l'anglais populiste. Donc c'est une frange, j'allais dire, extrême du parti conservateur, peu traditionnel, qui ne ressemble pas du tout à Theresa May d'ailleurs. Et donc c'est quelqu'un qui a toujours exploité la fibre nationaliste, la fibre populiste, quitte d'ailleurs à les trahir, parce que c'est en agitant cette fibre que les ouvriers, notamment de la zone rouge du nord-est de l'Angleterre, a voté pour lui. Ce sont des gens qui vont être trahis demain. De la même façon que les pêcheurs, on leur avait assuré une souveraineté totale et on est en train de leur dire aujourd'hui que finalement, pendant 5 ans et demi, les pêcheurs européens et français vont pouvoir accéder à leur zone économique exclusive. En réalité, c'est un populiste, un nationaliste qui passe son temps à trahir les siens pour faire passer ses projets. Et nous parlions de la délocalisation. Je suis désolé, moi je vais vous dire pourquoi d'autres entreprises vont bientôt partir, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas lu dans l'accord. Les produits seront taxés beaucoup. S'il y a des pièces détachées dans un produit qui va être vendu dans l'Union européenne, qui dépasse 40% de produits qui ne seraient pas produits dans l'Union européenne. Quand vous pensez qu'il y a des entreprises, je pense à Renault, Nissan, d'autres, qui fabriquent des composants à l'extérieur de l'Union européenne, qui les importent au Royaume-Uni et qui veulent exporter vers l'Union européenne, s'il y a plus de 40% de composants qui ne sont pas de l'Union européenne, ils seront taxés comme un produit extérieur à l'Union européenne. Donc, fatalement, il y a des entreprises qui vont dire « moi, ça ne va pas en termes de compétitivité ». Il va falloir que je délocalise. Et il n'y a pas que Rolls-Royce, il y en a d'autres. On pourrait parler de Bentley, d'ailleurs, pour les véhicules, Nissan, les Harley-Davidson. Tout ça, ce sont des entreprises qui sont importantes dans ces pays, qui risquent de délocaliser parce que, précisément, ils produisent des pièces détachées à l'extérieur et que l'intérêt pour eux, c'est de produire toujours moins cher.
Sylvie Matelli, quand même, cette idée du Brexit qui est de reprendre le contrôle, de mettre fin aux délocalisations, de reprendre même, qui est moins d'immigration, et si c'était l'un des ressorts du vote de 2016, on l'a également sur le continent, on l'a en France. Enfin, c'est même l'autre jour, François Ruffin disait, il faut la frontière peut être une protection. On voit que dans tous les chiquiers politiques, on a le retour de la frontière, c'est plus un gros mot.
Oui, tout à fait. C'est le repli sur soi des États-Unis également. Et on s'aperçoit qu'on a une critique de la mondialisation, c'est bien de cela qu'il s'agit, qui n'a cessé de monter. Mais finalement, l'exemple qu'on voyait dans votre reportage est l'illustration de tout le paradoxe et de toute la difficulté de ces questions. Parce que vous avez d'un côté des ouvriers qui ont perdu leur emploi à plusieurs reprises, qui continuent à le perdre parce que des délocalisations. Mais dans le cas de Rolls-Royce, vous êtes vraiment au cœur même du sujet de ce marché unique et de ce que peut être le Brexit. En effet, Rolls-Royce produit des avions, est aujourd'hui totalement intégré dans la filière aéronautique européenne, et en particulier les moteurs d'avions qui sont produits au Royaume-Uni venaient équiper des Airbus. Les moteurs d'avions qui Rolls-Royce qui équipe des Boeing sont des filiales américaines et produits sur le territoire des États-Unis. Donc il est très clair, et on voit ça depuis 4 ans, on voit toute la filière aéronautique britannique qui s'est inquiétée il y a encore quelques semaines. C'est le PDG de British Aerospace, de BAE Systems, qui a envoyé une lettre au Premier ministre en disant « Attention, le Brexit va nous coûter très cher et nous allons être obligés de délocaliser. » Rolls-Royce a déjà racheté des filiales en Europe, d'ailleurs avait déjà une stratégie de repositionnement en Europe. Et c'est là que Boris Johnson va avoir énormément de difficultés, parce qu'il va falloir qu'il justifie ces délocalisations en expliquant que malgré tout, il a négocié un bon accord et que le Brexit va être profitable au Royaume-Uni. Et au-delà de Boris Johnson, comme vous le disiez à l'instant, la question va se poser dans un nombre de pays, et c'est la question de la réindustrialisation, c'est la question... Mais c'est vrai que le Brexit rajoute encore une énorme difficulté aux difficultés économiques qui vont venir suite à la crise du Covid et à ces revendications de repli sur soi, de plus grande protection. Et de ce côté-là, je rejoins également la question que vous avez posée il y a un instant. On s'aperçoit que finalement, les partis aujourd'hui, partout dans le monde, ou en tout cas dans les pays occidentaux qui répondent le mieux à cette demande, sont plutôt des partis de droite. Et ça, c'est assez nouveau et ça pourrait pas mal bouleverser les échiquiers politiques dans les années qui viennent.
Jean-Dominique Giuliani, justement, face à cette demande de protection, de frontières, est-ce que l'Union européenne ne doit pas s'interroger, se dire attention, il y a quand même quelque chose qui s'est passé en Grande-Bretagne qui doit nous interroger?
Oui, bien sûr, oui, absolument. Mais si vous voulez, il faut aller un peu plus loin. Il y a cette demande de protection face à une économie et une globalisation qui s'est emballée, en quelque sorte, qui s'est financiarisée énormément, et là, il faut des réponses. Et la réponse, ce n'est pas forcément la frontière. La frontière, ça, c'est un thème à droite, à gauche, aux extrêmes, comme au sein des partis, qu'on entend en permanence. Moi, le 1er janvier, on va voir ce qu'il en est de la frontière à Douvres et à Calais. D'ailleurs, on l'a déjà vu. La frontière, ce n'est pas ce qui permet de construire une identité aujourd'hui. Je crois que l'identité moderne, c'est la langue, c'est la culture, c'est le modèle social, le modèle économique. Oui, ce n'est pas la frontière. Il y a toute une théorie avec Régis Debray, éloge de la frontière, etc. À mon avis, ça, c'est du passé. Il va falloir qu'on construise la protection moderne, et ce n'est pas forcément la frontière. Et je pense que le Brexit, tel qu'il va se dérouler pour le Royaume-Uni, sera l'exemple du fait que ce n'est pas la frontière qui protège, c'est autre chose. Et bien sûr, on a besoin de protection.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, Patrick Martin-Jeunier, quelles sanctions si les Britanniques ne respectent pas l'accord ?
Bah écoutez, les sanctions, en réalité, sur le plan des sanctions, les Britanniques, on peut dire, ont gagné parce qu'il y aura un panel, un organe indépendant qui devra régler les conflits. Mais s'agissant des subventions aux entreprises, c'est un organisme d'experts qui se prononcera après que les subventions aient été données. Et s'agissant des conditions d'une concurrence équitable sur l'environnement, sur le social, c'est quelque chose qui interviendra à l'issue d'une période de 4 ans. Mais il n'y aura pas de sanctions à court terme.
Sylvie Matelli, la City est-elle pénalisée par l'accord du Brexit ? Question d'Éric à Paris.
Très clairement, et un certain nombre de responsables de la City se sont émus ces dernières heures en considérant qu'elle ne participait pas à l'accord. Alors, on a beaucoup dit que la City avait peu perdu depuis le référendum, qu'elle allait probablement moins perdre qu'on ne l'imaginait. Somme toute, on annonçait à l'automne que 3 000 milliards d'actifs avaient été délocalisés et relocalisés en Europe. Pour donner un ordre de grandeur, 3 000 milliards d'actifs, c'est quand même deux fois le CAC 40, donc c'est pas rien. Et ce n'est qu'un début.
Anne-Elisabeth Moutet, que va-t-il se passer pour les migrants à Calais ? Question de Cathy dans le Nord. Est-ce que ça change quelque chose sur la politique migratoire,
La question, c'est que les migrants sont toujours là suivant le protocole de Dublin, c'est-à-dire qu'ils sont censés rester dans le premier pays européen dans lequel ils sont rentrés. Alors, il y a tout de même, si on décide brusquement qu'on les envoie chez les Britanniques, je ne pense pas que ce soit possible, puisque le problème, il est pas, ils ne sont pas arrivés à Calais directement des endroits d'où ils viennent d'habitude, sauf si c'est des migrants belges. Donc ça ne change pas grand-chose.
Est-on sûr que le Parlement britannique et tous les pays de l'Union européenne entérineront cet accord? C'est vrai, Jean-Dominique Giuliani, il faut que cet accord qui a été signé hier soir, il soit ratifié par les 27 parlements Union européenne?
Non.
Non?
Par le Parlement européen uniquement.
Il faut que chaque pays le valide.
Mais chaque pays, c'est en cours. Aujourd'hui, il y a une réunion des ambassadeurs qui engagent leur pays. Et je pense qu'ils vont donner leur accord. Et ensuite, l'accord va être appliqué de manière provisoire le 1er janvier, devra être ratifié par le Parlement européen. Il y a toute chance qu'il le soit, mais au passage, on peut dire que ce n'est pas très démocratique comme procédure, alors qu'au Royaume-Uni, le Parlement est convoqué pour le 30 décembre, et je pense que c'est comme ça qu'on aurait dû procéder.
Le Royaume-Uni porte-t-il encore bien son nom, Anne-Elisabeth Moutet? Est-ce qu'ils sont unis, les Britanniques, dans toutes leurs composantes?
Ah, vous savez, il suffit d'une minorité agissante de 20% pour faire une révolution qui réussit. Et ce sont ceux, on entend évidemment toujours ceux qui se battent le plus. Je pense qu'il y a, alors, il y a, on parle de la symbolique de la reine, c'est pas rien. Il y a une identité britannique, à la différence d'identité très forte des Anglais, des Gallois.
Voit des drapeaux britanniques ou on voit les drapeaux anglais, des drapeaux...
On voit des drapeaux britanniques qui sont, comme vous le savez sûrement, la croix de Saint-André rouge sur un fond blanc, alors que la croix de Saint-Michel, alors que la croix de Saint-André, c'est la croix blanche sur un fond bleu, et les deux ensemble des Écossais, et les deux ensemble font
C'est le drapeau britannique qu'on voit, mais on voit souvent le drapeau anglais, les drapeaux écossais.
Et les Gallois disent, bon, on est dans le rouge, mais tout de même, les Gallois, ils sont rouges et verts avec un superbe dragon, et ils le regrettent beaucoup. Mais ça crée des problèmes parce qu'en réalité, il y a eu une réforme politique au Royaume-Uni il y a une quinzaine d'années qui était la dévolution. Mmh. La dévolution, ça a consisté à créer des parlements régionaux, enfin des parlements des nationalités. Mmh. Et les politiques qui ont commencé à être dans ces parlements ont fait de la politique parce que ça, fallait s'y attendre. Et ce qui fait que ça a un peu fait naître une espèce de monstre.
Ce qu'on croyait être du folklore est devenu... pouvoir politique.
C'est un peu comme la régionalisation en France, où la loi de fer, on pensait que ça allait absolument changer les choses. Et ce que ça a fait, c'est rajouter des couches au millefeuille administratif. Alors, les seuls deux départements français, la région française qui correspondrait à ce état d'esprit, c'est la Corse, qui régulièrement demande à partir.
Quel sera l'impact du Brexit sur l'économie française? Jean-Dominique Giuliani, l'autre jour, Bruno Le Maire était... Il voulait être très rassurant, il n'empêche, les Anglais nous achètent beaucoup de champs. Pour certains secteurs, ça va être très compliqué.
Oui, enfin, pour l'Union européenne, le Royaume-Uni représente moins que l'inverse. C'est-à-dire les exportations à l'égard de l'Union européenne, à l'égard du Royaume-Uni, c'est 8% en gros du commerce de l'Union européenne. Pour la France, davantage. C'est notre premier excédent commercial, 12,5 milliards. Et donc, oui, notamment pour les régions de Bretagne, du Nord et de la Normandie, c'est quelque chose qui va compter. Mais... on a appris aussi hier que l'Union européenne prévoyait de venir aider les professions qui auraient à pâtir de cet accord raisonnable. J'en profite pour corriger ce que vient de dire Anne-Elisabeth Moutet. Vous me permettrez, la Corse ne demande pas à partir.
Ah, parce que vous êtes Corse,
voilà, d'ailleurs.
Alors, il faudra. Alors, attention, on ne va pas commencer une émission sur le Brexit Corse. Il n'y a pas encore de mots, d'ailleurs.
Et ça sera coupé. Je crois que
faudra-t-il un passeport et un visa pour résider au Royaume-Uni, quid des Anglais vivant en France?
Les résidents ne devraient pas avoir de difficultés dès lors qu'ils sont installés en France depuis longtemps, une résidence secondaire ou des gens qui exercent un métier, qui sont installés, voire qui ont une entreprise installée en France, j'en connais. Il y aura le passeport qui sera nécessaire, bien évidemment. Il n'y aura pas de visa à court terme, à moins de 3 mois, pour les touristes. Mais dès lors qu'effectivement, que ce soit d'ailleurs des Anglais en France ou des Français en Angleterre, voudront travailler plus de 3 mois, eh bien, le Royaume-Uni sera considéré comme un État un État tiers. Il faudra donc un titre de séjour pour travailler en France. Et idem pour les Français, les ressortissants français qui voudront travailler. Mais dès lors que je voudrais rassurer les binationaux, j'en connais qui sont au Royaume-Uni, mariés à un Français ou de la famille en France, dès lors qu'il y aura un conjoint français, il n'y aura aucune difficulté pour obtenir un droit de travailler dans l'Union européenne et en France.
Il faudra un passeport à partir d'octobre prochain pour aller au Royaume-Uni. La carte d'identité ne suffira plus.
Je voudrais dire que lors de la crise financière de 2008, une grande partie des Anglais installés dans la région de la Dordogne sont partis parce qu'ils vivaient de leurs économies. Leurs économies, c'est des fonds de pension, puisque leur retraite marche par fonds de pension. Une partie sont partis. Ça a été épouvantable pour les départements concernés, parce que brusquement, il y a des villages qui se sont vidés. Et il y a un énorme effort administratif qui a été fait au niveau des communes, au niveau des mairies, au niveau de la sous-préfecture, des sous-préfectures et de la préfecture, pour justement éviter ça, de sorte qu'ils ont des gens qui parlent anglais avec les gens qui viennent s'occuper de leurs papiers, et ils vont leur faciliter la vie pour qu'ils puissent rester en France. C'est d'ailleurs assez touchant.
Une autre question pour vous, Anne-Elisabeth Moutet, qui avait écrit sur le sujet. Est-ce que la reine a joué un rôle dans le retour de Boris Johnson à la table des négociations? Question de Sophie dans les Pyrénées-Orientales. Elle était quoi, brexiteuse ou européenne, la reine?
Je pense que si on peut se poser la question sur le Brexit, ce qui est absolument certain, c'est qu'elle ne veut pas voir l'éclatement de l'Union. Ah bah oui. Et donc, de toute façon, c'est un petit peu, c'est une espèce de super Angela Merkel. C'est quelqu'un qui est dans le consensus dans le maintien de ce qui est de ce qui existe. Je pense pas qu'elle ait fait quoi que ce soit. Je suis absolument persuadée que c'est pas elle qui a téléphoné à Boris Johnson pour lui dire maintenant, faut que ça arrête. Mais il y a des moyens de faire communiquer par les hauts fonctionnaires du palais que...
C'est bien d'avoir un accord.
De toute façon, je pense que tous les Anglais se rendent compte, tous les Britanniques, pas les Anglais, tous les Britanniques se rendent compte que l'éclatement de l'Union, ce serait catastrophique pour la reine. Il ne le lui souhaite pas car il l'aime beaucoup.
Sylvie Matelli, ce deal peut-il être revu chaque année? Est-ce qu'on peut revoir les conditions, les durcir, les assouplir?
Alors, éventuellement, c'est prévu s'il y a une divergence trop forte dans les normes, en fait, et l'évolution des normes entre les deux, entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. On peut imaginer qu'il y ait, en tout cas, c'est prévu dans l'accord, de ce qu'on sait de l'accord, qu'il y ait une révision de cet accord. Somme toute, l'accord va être également complété, on l'a dit, puisqu'il y a un certain nombre de sujets qui n'en font pas partie, et la relation future s'écrit à partir du 1er janvier et se définira et s'améliorera et s'amplifiera au fur et à mesure que les mois passent.
Jean-Dominique Giuliani, un sentiment anglophobe est-il voué à grandir en Europe? Question de Sébastien dans le Calvados.
Non, je ne le pense pas. Sauf que cette affaire va laisser un goût amer à tout le monde. Vous sentez bien d'ailleurs que dans les commentaires. En réalité, si on pense que la politique, c'est d'essayer d'améliorer la vie des gens, eh bien là, on s'aperçoit que c'est un immense gâchis. Ça va tout compliquer. Des deux côtés du Channel, spécialement au Royaume-Uni, je crois que ça va aggraver la crise, et Dieu sait si on n'en a pas besoin, et ça va être mauvais pour l'Europe aussi. Donc, un gâchis, perte de temps, perte d'énergie, grand gâchis.
Et bien voilà, ce sera sur ce triste constat que se termine cette émission. Merci d'y avoir participé, joyeux Noël à tous. Merci. Rediffusion ce soir de C'est dans l'air à 22h40, et vous restez sur France 5 à suivre C'est à vous.